Alors, nous avons quelques changements dans le programme de cette deuxième séquence, donc intitulée « Combat ». Puisque malheureusement, nous avons des absences à déplorer. Anne-Sara Bouglet n'est pas parmi nous. Elle a malheureusement dû annuler son voyage pour des raisons de santé. Et alors Anne-Sara Bouglet, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, a soutenu une thèse sur le suffrage féminin, sur la conquête du suffrage féminin de 1848 jusqu'à 1944. Une thèse récente d'ailleurs. Et elle était évidemment désolée de ne pas pouvoir assister, mais je pense que nous aurons quand même le plaisir de l'entendre pour la troisième journée qui sera organisée l'an prochain. Quant à Claude Latta, alors Claude Latta malheureusement aussi a eu de gros ennuis de santé très récents et donc s'est excusé mais n'a pas pu non plus nous rejoindre à Poitiers. Alors cela dit, ne vous levez pas et ne fuyez pas. Louis Vibrac, donc membre éminent de l'association André Léo, va lire la communication que Claude Latta nous a envoyée. Et nous pourrons ensuite donc en discuter après cette lecture. Voilà, donc un programme un peu modifié, une intervention un peu différente de ce qui était prévu. Mais malgré tout, nous aurons quand même la chance d'entendre cette intervention sur le rôle d'André Léo, la place et le parcours d'André Léo durant la répression de la Commune. Donc, Monsieur Vibrac, pour une vingtaine de minutes.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour, et je suis le premier évidemment à déplorer l'absence de Claude Latta parce que je suis obligé de lire sa communication, je ne dis pas au pied levé mais presque. D'autre part, je vous impose ma voix un peu de fossé alors que lui il a une extrêmement belle voix de basse. Mais j'ai quand même plaisir de le remplacer parce que je n'oublie pas qu'en 2000, il est venu à Champagny nous faire une conférence sur André Léo, lui le spécialiste et le président d'ailleurs des amis de Benoît Malon, et c'est lui qui a relancé en quelque sorte la curiosité de l'association à propos de André Léo. Donc, il a intitulé sa communication « Après la semaine sanglante, André Léo est caché à Paris et sauvé par Pauline Prince ». Après la semaine sanglante en mai 1871, 5 à 6 000 membres de la Commune ont réussi à fuir Paris. Parmi eux, la romancière André Léo et son compagnon Benoît Malon. Tous deux se sont trouvés séparés pendant la semaine sanglante. Benoît Malon était au Batignolles dont il était maire. André Léo était à Montmartre. Ils se sont cachés à Paris, chacun de son côté. Et si la liaison entre eux a été rétablie avant leur départ de France, ils se sont retrouvés en Suisse. Cette communication étudie comment André Léo a, grâce à son amie Pauline Prince, échappé à la répression. Elle vient en complément d'une étude parallèle faite à propos de Benoît Malon. Nous nous sommes posés, à propos de ces deux personnages, cette question. Quels sont, en période de querelle civile, quand les vaincus sont pris dans la tourmente de la répression, les mécanismes qui jouent pour les soustraire à l'arrestation et à la prison? Mais cette étude est aussi le récit d'une amitié entre deux femmes, André Léo et Pauline Prince. Une amitié qui se prolonge après la Commune. André Léo n'a jamais dit ou écrit où elle s'était cachée dans la période qui suit la semaine sanglante, évoquant seulement dans la guerre sociale une prudente cachette qui lui avait permis d'échapper à la répression. Elle écrit le 2 août 1871 à ses amies Mathilde Roederer et Élise Grimm, je cite, « J'ai dû me cacher pendant 2 mois pour échapper aux bouchers de Versailles et sauver ma vie et ma liberté. » Dans un premier temps, des raisons de sécurité imposaient évidemment cette discrétion, mais par la suite, André Léo n'est jamais revenu sur ce sujet. D'où pendant longtemps un certain mystère, entretenu par André Léo elle-même, puis par Jam Guillaume, historien de l'International. En fait, André Léo trouve un refuge dès le début de la répression chez son amie Pauline Prince, qu'il abrita à Paris pendant presque 2 mois. Nous avons utilisé les archives appartenant en particulier au fonds des caves de l'Institut international d'histoire sociale à Amsterdam, des lettres d'André Léo, mais aussi de Benoît Malon et du militant suisse Adhémar Schwitzgebel permettent d'établir les faits. James Guillaume donne de précieuses indications dans son histoire de l'international. En fait, le rôle de Pauline Prince ne fut mentionné pour la première fois que dans l'ouvrage de James Guillaume sur l'international entre 1905 et 1910. Cette information s'appuie sur le témoignage d'un militant suisse de l'international déjà cité, Adhémar Schwitzgebel, qui n'indique que le prénom et l'initiale du nom de Pauline Prince, Pauline P. Nous ne l'avions pas d'abord identifié. Pauline P. a été identifiée par Marc Huillemier d'après les papiers de Gustave Jeanneret, un Suisse aussi membre de l'international. Pauline Prince était une jeune femme de 26 ans qui tenait avec son frère Pierre Prince une fabrique et un magasin de cannes et de parapluies au 19 de la rue de Montmorency dans le quartier du Marais. Lucien Descaves reçut son témoignage en décembre 1904. Il note sur l'affiche qu'il rédige que Pauline Prince avait connu André Léo à ses conférences, donc avant la Commune, peut-être pendant la période du mouvement des réunions publiques. Elle avait fait partie du service des ambulances pendant le siège de Paris et pendant la Commune, gagnée au socialisme, elle était aux ambulances des forts du Sud, c'est-à-dire des forts d'Issy et de Vanves. Pauline Prince avait, elle aussi, adhéré à l'international et, à la fin de la Commune, elle est chargée par André Léo de recruter des crieurs de journaux pour vendre dans la rue le journal La Sociale. Elle se passionne, comme André Léo, membre de la commission de l'enseignement pour l'enseignement des filles, à la réorganisation de l'école de filles de dessin de la rue Dupuytren. Celle-ci existait déjà avant la Commune et avait été dirigée par Rosa Bonheur. Elle fut réouverte le 12 mai 1871 avec un nouveau programme d'instruction et elle était désormais gratuite. Elle était devenue une école professionnelle d'art industriel pour jeunes filles, était enseignée outre des éléments de culture générale, le dessin, le modelage, la sculpture sur bois et sur ivoire. Réforme qui donnait aux jeunes filles l'accès à un enseignement technique et à une profession qui garantirait leur indépendance. André Léo confia à Pauline Prince cette école avant de disparaître pour échapper à la répression versaillaise. Pauline Prince, militante engagée et cœur passionné, comme l'écrit son neveu Pierre-Émile Prince, était aussi une jeune femme cultivée et artiste. Elle s'associa à son frère aîné Pierre Prince pour reprendre la fabrique artisanale donc de cannes et parapluies et la boutique de leur grand-père Joseph Bourgeois sous le nom de Prince aîné et sœur. Pauline et Pierre Prince, je précise que Prince et P-R-I-N-S, étaient proches des milieux artistiques. Pauline était l'amie de Suzanne Léoneuf, la compagne du peintre Édouard Manet, qui avait fait sa connaissance grâce à elle. Pierre Prince était aussi sculpteur et peintre. Encouragé par Manet, il fit partie du groupe des impressionnistes. Il avait épousé la jeune violoniste Fanny Claus, une autre amie de Pauline, membre du Quatuor Sainte-Cécile. Fanny Claus apparaît aux côtés de Berthe Morisot dans Le Balcon, le célèbre tableau de Manet peint en 1869. Par Pauline Prince, André Léo a connu Pierre Prince et peut-être aussi Édouard Manet. Alors que la répression versaillaise se déchaînait, Pauline Prince abrita André Léo dans une chambre située sous les toits, chambre de bonne, située au dernier étage de la maison où se trouvait son magasin de cannes et parapluies. La maison, construite en 1800, et la boutique existent toujours. André Léo ne sortait pas pour d'évidentes raisons de sécurité. Le soir, après la fermeture de son magasin, Pauline Prince montait la voir et les deux femmes avaient de longues conversations, réflexions sur la situation politique et confidences personnelles qu'André Léo évoque avec nostalgie et une certaine exaltation dans les lettres envoyées plus tard à Pauline depuis son exil suisse. André Léo, à la fin d'une lettre de 1872, écrit « Je vous embrasse, cher ami, de tout mon cœur, lequel visite toujours et souvent la chambre que vous savez et où il vous revoit toujours aussi bonne et aussi chère. » La formule pourrait paraître presque ambiguë. Elle ne l'est pas parce qu'au XIXe siècle, on emploie souvent, dit Claude Latta, le langage de l'amour pour exprimer l'amitié. On retrouve le même vocabulaire et les mêmes expressions passionnées dans les lettres d'André Léo à ses amis Mathilde Roederer, Élise Grimm, Isaure Perrier, Élise de Pressensé, Caroline de Barrault ou Victoire Jacquelart. En effet, André Léo écrivait en 1872 à deux d'entre elles « Que je suis heureuse, mes bonnes amies, de l'affection si pure et si vraie de cœurs d'élite comme les vôtres. » Selon Lucien Descaves, Pauline Prince servit d'intermédiaire entre André Léo et Malon, alors chez Autain. Auguste Autain était le sculpteur qui cacha Benoît Malon. Le contact entre Benoît Malon et André Léo, perdu depuis la Semaine sanglante, avait donc été rétabli. Plus tard, Benoît Malon a écrit à Pauline Prince, j'ouvre les guillemets, « Quoi qu'il arrive, je me souviendrai toujours avec attendrissement de votre courage et de votre dévouement envers les vaincus. » Pauline Prince aidait les communards et leur remettait les passeports en blanc apportés par Adhémar Schützgebel, puis par Gustave Jeanneret. Adhémar Schützgebel était membre depuis 1866 de la section suisse de l'Internationale et depuis 1869 de l'Alliance internationale pour la démocratie socialiste, organisation créée par Bakounine au sein même de l'AIT. Il travaillait à Sonvilliers, en Suisse, dans l'atelier de gravure sur montre de son père, ancien des luttes politiques de 1848, et s'était porté volontaire pour une mission à Paris afin d'acheminer clandestinement dans un sac à double fond des passeports destinés aux anciens communards qui souhaitaient gagner la Suisse. Il rencontra André Léo chez Pauline Prince. Lors de sa visite à Paris, Adhémar Schützgebel fut d'ailleurs impressionné par la fermeté d'âme d'André Léo et Pauline Prince. Il écrit quelque temps après à cette dernière « Croyez bien que lorsque j'ai communiqué à nos amis sur le résultat de notre entrevue avec vous et Madame Léo, tous ont admiré votre fermeté morale à toutes deux. Au centre même de l'orage réactionnaire, restez ferme, sereine, ne point montrer de colère, mais de la réflexion, du calme. Un pareil spectacle a produit sur moi une impression qui ne s'effacera pas et qui m'attache à vous. » On a bien l'impression, dit Claude Latta, qu'Adhémar Schützgebel a été, sans être payé de retour, amoureux de Pauline Prince. Rentré en Suisse, il lui écrivait qu'il souhaitait que leur amitié s'approfondisse et continue. En décembre 1871, André Léo écrit à Pauline que son ami Adhémar se plaint toujours qu'elle ne lui écrit point. Pauline Prince reçut aussi Gustave Jeanneret. Celui-ci était un citoyen suisse, dessinateur sur étoffe à Paris, membre de l'Internationale. Bloqué à Neuchâtel par la guerre franco-prussienne, il rentra à Paris un an plus tard, en juillet 1871, muni du même sac à double fond qu'avait utilisé Schwitzgebel et qu'il simulait donc des passeports suisses destinés à faire sortir de Paris des communards cachés dans la capitale. Gustave Jeanneret rencontra Pauline Prince seule. André Léo avait en effet déjà gagné la Suisse et par elle fut mis en contact avec Marie Vinçard qui fournissait des faux papiers d'état civil aux communards. Un mandat d'arrestation avait été lancé contre André Léo le 17 juin 1871. Grâce à l'un des passeports que Schwitzgebel avait apporté à Paris, elle réussit à gagner la Suisse. Elle arriva à Bâle le 22 juillet et envoya à Pauline Prince un télégramme qui contenait la formule convenue à l'avance pour dire qu'elle était bien arrivée. Et ce message est le suivant. « Cannes et canards l'ont bien passé. Expédiez nouveaux colis amis. Tout à vous, André. » À Bâle, André Léo retrouva Benoît Malon, arrivé une semaine auparavant. Tous deux gagnèrent le 25 juillet Neuchâtel, où les attendait James Guillaume. L'exil commençait. Pauline Prince, elle, rendit de nombreux services à André Léo. Elle fut son intermédiaire pour négocier la parution de textes de la romancière dans les journaux, en particulier auprès de Louis Jourdan, directeur du siècle, et auprès de l'éditeur Hetzel. Pauline rendait de nombreux services à André Léo. Elle évacua ce qui était entreposé, par exemple, dans la cave de l'appartement d'André Léo, rue Nollet, à Paris. Elle envoyait André Léo des livres, des journaux, et même du linge, et même un maillot de bain en laine noire, s'il vous plaît, pour se plonger dans les eaux du lac de Côme. André Léo encourage Pauline Prince à réouvrir l'école à nouveau fermée de la rue du Puitrin, mais le projet n'aboutit pas. Elle demande aussi à Pauline Prince de veiller à l'envoi de secours et surtout de livres aux communards déportés en Nouvelle-Calédonie. Pauline Prince, qui habitait toujours rue de Montmorency, se maria le 24 juin 1873 à la mairie du 3e arrondissement de Paris. Elle épousa Édouard Henri, dit Félix Donadieu, de 4 ans son cadet, fabricant lui aussi et marchand de canne et de parapluies, et dont le père était bijoutier, fabricant de chaînes en or, rue Dauphine. Le frère de Pauline, Pierre Prince, était son témoin. La correspondance entre André Léo et Pauline Prince se prolongea jusqu'en 1876. Les routes des deux femmes se sont alors progressivement séparées. En 1904, Lucien Descaves recueillit le témoignage de Pauline Prince. Son mari, alors, elle, habitait et tenait une boutique, je vous donne en mille, de canne et parapluie, mais au passage Choiseul à Paris. Pauline Prince était retournée à un certain anonymat qui ne voulait pas être troublé. James Guillaume reçut aussi son témoignage. Elle demanda que son nom soit seulement indiqué par son initial et donc, on l'a vu tout à l'heure, James Guillaume ne parle donc que de Pauline P. dans son ouvrage sur l'international. Cet anonymat relatif était d'ailleurs bien propre à exciter la curiosité des historiens. Mais on ne sait rien d'autre d'elle, ni sa date de décès, ni rien de son histoire personnelle après 1876. Son frère Pierre Prince était devenu, à partir de 1890, un peintre connu. Notoriété que sa participation au mouvement impressionniste ne lui avait pas d'abord assurée. Quand il les rencontre rue de Montmorency, Adhémar Schwitzgebel est impressionné, on l'a dit, par le courage et le sang-froid de Pauline Prince. Benoît Malon lui dit sa reconnaissance pour son dévouement en faveur des vaincus. Après la période du danger, elle est retournée à sa vie ordinaire. Mais elle appartient à l'histoire de la commune. Son aventure individuelle permet de mieux comprendre les événements de celle-ci. Le rôle des femmes pendant la commune, le sauvetage d'une partie des vaincus après la semaine sanglante. Son histoire et celle de sa famille montrent aussi le rôle des milieux littéraires et artistiques dans l'histoire du mouvement républicain et ouvrier. Pauline appartenait à ce milieu si important dans Paris, des artisans qui sont aussi des artistes. Cette histoire est aussi celle d'une amitié passionnément construite dans le combat de 1870-1871, puis dans les conversations de la rue de Montmorency, alors que rôde la menace de l'arrestation des communards. Les jours sont alors des années. Pauline Prince et André Léo ont alors beaucoup échangé. Pauline a été aussi, après la commune, une aide précieuse pour André Léo. Puis leurs chemins ont divergé. Les deux femmes ne se sont pas revues. L'exil a duré longtemps. Pauline s'est mariée, a eu une autre vie, mais elle a gardé les lettres qui évoquaient la période exaltante de sa jeunesse et de ses engagements. Le sauvetage d'André Léo nous donne enfin un exemple des efforts qui furent faits dans Paris, même à l'extérieur, pour sauver les communards. Plusieurs réseaux les ont cachés et fait sortir de Paris. André Léo fut sauvé par l'International et Pauline Prince joue ici le rôle principal. La section suisse de l'AIT envoie Adhémar Schwitzgebel et Gustave Jeanneret. En 2012, lors d'un séjour à Paris, nous sommes allés voir la maison du 19 de la rue de Montmorency. Et s'il dit « nous », Claude Latta veut parler de lui et de son épouse, Danielle, qui a fait les photos, photos qui paraîtront dans son intervention écrite. Nous avons vu les mansardes qui la couronnent. Dans l'une de ses chambres, André Léo s'était caché en 1871. Sous le porche de la maison, je sens vibrer l'âme de Claude Latta, étaient passés Pauline et Pierre Prince et André Léo, Gustave Jeanneret et Armand Schwitzgebel. L'historien s'imprègne ainsi des lieux qui portent la mémoire des hommes et des femmes qui ont traversé l'histoire et dont il essaye de faire comprendre les épreuves et les espoirs. Les espoirs d'André Léo et de Pauline Prince ont une grandeur qui ne se ternit pas. Merci de votre attention. Merci pour Claude Latta qui a fait un gros travail et qui s'est passionné vraiment jusqu'à aller évidemment photographier les lieux dont il parle.
Merci beaucoup, Monsieur Vibrac, pour cet exercice qui n'est pas évident, hein, de vous faire le porte-parole de Claude Latta. Alors simplement, peut-être, de cette communication, je retiens deux éléments, et puis ensuite, j'ouvrirai évidemment la discussion. Mais des choses qui ont été évoquées tout à l'heure, notamment le rôle, l'importance pour André Léo de l'éducation, notamment durant la période de la Commune, comme vecteur d'émancipation. Alors c'est quelque chose qu'on a vu dans ses romans. C'est quelque chose qui est pour elle une activité réelle dans le cadre de l'engagement communard, dont on reparlera également cet après-midi, je suppose, pour la suite de son histoire. L'importance de l'éducation d'une part, et puis d'autre part cette focale sur les milieux et les réseaux. Nous avons évoqué ce matin les milieux scientifiques, hein, finalement, les quelques liens que pouvait avoir André Léo avec le monde des sciences. Là, il est question des milieux littéraires, des milieux artistiques. Et puis, il est question de ces fameux réseaux d'évasion. Alors, a été évoqué le réseau de l'International, mais avant même ce réseau-là, il y a également le réseau de l'amitié, le réseau des relations personnelles d'André Léo. Et puis, je crois, mais là, Claude Latta aurait été évidemment certainement plus à même que moi d'en parler. En ce qui concerne Benoît Malon, qui donc part en Suisse un petit peu avant André Léo, je crois, il bénéficie des réseaux protestants. Donc on a là vraiment des liens qui se tissent, hein, de milieux qui s'interpénètrent et qui montrent bien là aussi à la fois l'engagement littéraire d'André Léo, mais aussi son parcours politique et son engagement politique. Alors nous sommes exactement dans le timing qui nous était imparti. Évidemment, la discussion est un peu délicate puisque M. Vibrac...
Ah oui, moi je ne peux pas remplacer Claude Lattat, excusez-moi, je n'ai pas fouillé comme il l'a fait. Simplement, je peux dire que moi, ce qui me plaît aussi, c'est le côté secret nécessaire pour la sauvegarde des communards. Et M. Jean-Pierre Bonnet, qui sera là cet après-midi, a trouvé un message codé qui était indispensable donc, entre les gens de Suisse et les communards. Seulement, je pense que le codage n'était pas encore au point parce que je me suis amusé à le décoder et en une demi-heure, je ne suis pas spécialiste, j'ai réussi à trouver tout ce que ça signifiait, ou presque.
Très bien. Alors peut-être y a-t-il d'autres remarques ou des questions après qu'on peut effectivement poser à ceux qui sont intervenus ce matin également.
J'ai une question. Donc, moi, en fait, je ne connais pas grand-chose sur cette histoire, sur son mandat d'arrestation. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut donner plus de renseignements sur ça. Quelle est la source? Comment est-ce qu'on sait qu'il y avait un mandat d'arrestation et d'autres informations là-dessus?
Je me permets de réintervenir pour essayer de répondre et au moyen de la contribution écrite qui est beaucoup plus détaillée, bien sûr, et que vous pourrez lire quand ça sera publié. Et il dit que ce fut aussi le temps, après la Commune, des fausses rumeurs. On croit d'abord qu'André Léo a été arrêté. Le Figaro l'annonce le 18 juin par ces termes. Madame André Léo est détenue à Versailles. Et le publiciste Paul de Lyon écrit aussi dans un livre publié immédiatement après la semaine sanglante, je crois que c'est dès le mois d'août, Madame André Léo a été arrêtée et détenue à Versailles. C'est une fausse nouvelle. Ou alors on avait sans doute identifié par erreur l'une des prisonnières de Versailles comme étant André Léo. C'est non seulement l'heure des rumeurs, mais aussi l'heure des calomnies et des injures. Et les mêmes rumeurs continuent pendant plusieurs mois. André Léo n'est pour la presse versaillaise qu'une déclassée dont le vrai nom serait Madame de Champsex, s'il vous plaît, qui a essayé autrefois de faire la grande dame. La femme comme il faut, qui s'est trop vite aperçue que ses efforts réussissaient seulement auprès des collégiens naïfs. Bon, donc, elle est sous l'emprise des critiques et des rumeurs, mais pas sous l'emprise de la police, apparemment.
J'ai un autre élément de réponse, peut-être. Il existe un dossier sur André Léo aux archives de la préfecture de police. Voilà, qui revient d'ailleurs sur ces rumeurs. Hein. On voit que la police...
Sauf erreur, on n'a pas trouvé de mandat d'arrêt.
Cependant,
il circulait dans les milieux de la police, et là on l'a vu dans les rapports de police, des listes de personnes où André Léo était signalé. Mm-hmm. Donc ce n'était pas des mandats d'arrêt directs, mais c'était des dénonciations, et les policiers avaient ces listes avec eux. Donc étaient dedans évidemment tous les activistes de la commune.
Oui, des indications sur les caches potentielles d'André Léo et voilà. les recherches de la police. Voilà. C'est ce qui apparaît dans les listes.
Donc c'était des listes et on disait, bon, ils étaient dans tel arrondissement. Donc il pouvait y avoir des recherches indirectes et sans mandat d'arrêt dans l'absolu parce qu'on était dans une période qui était quand même très trouble.
Soit dit en passant, juste une dernière remarque, et ce sera peut-être un premier élément de réponse à M. Baudry par rapport à sa question de tout à l'heure. Il y a justement dans ce fameux dossier, mais que vous avez peut-être vu également, ce fameux dossier de police, une lettre envoyée par André Léo au préfet de police dénonçant les commissaires et les policiers qui lisent Le Figaro. Et en annotation de la main d'un des employés de la préfecture de police, on a indiqué qui est cet André Léo. Et 7, CET, hein, donc masculin. Alors, ce qui montre aussi que là, bon, voilà, on était en 72, hein, 1872. Voilà. Frédéric Chauveau.
Oui, trois petites remarques. La première concerne aussi la difficulté de trouver de la documentation, puisque, outre les archives de la préfecture, on sait aussi, c'est ce que avait montré par exemple Robert Toms dans un livre célèbre, La guerre contre Paris, qu'une partie de la documentation ou des archives avait été en fait, enfin, circulait donc à l'intérieur des troupes armées. Et on sait que l'armée a été dissoute parce qu'elle était constituée, donc, si je peux dire, de façon un petit peu particulière. Et donc, au mois de mai, il y a des photos qui sont données à un certain nombre de troupes de ligne, avec également des listes des personnes à arrêter ou à fusiller, ce qui fait par exemple que Victorine B ou Jules Vallès ont chacun été fusillés plusieurs fois parce qu'il y a eu des erreurs et c'est d'autres prisonniers ou d'autres prisonnières qui ont été fusillés à la va-vite. Donc là, il y a une difficulté. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait sans doute peut-être mener l'investigation auprès de sources militaires qui, pour l'instant, donc, n'ont pas forcément donc, été explorées. Alors, évidemment, là, c'est un travail de fourmi. Donc, bon, si pour les prochaines grandes vacances, bon, quelqu'un a des loisirs, donc n'hésitez pas. Voilà. Deuxième petite remarque, là, c'est dans la communication de Claude Lattat. Là, j'étais particulièrement donc, intéressé par les lettres, les correspondances et les formules de politesse qui terminent, mais ça m'a fait penser aussi, donc là, c'est juste une remarque, c'est pas une question, à la correspondance de Rosa Luxembourg. Et quand on regarde, par exemple, comment Rosa Luxembourg peut signer, bon, elle met des formules très simples du style « je vous serre affectueusement la main », mais elle a parfois, donc, évidemment, des tournures qui sont plus affectives encore. Et voilà, ça, c'est intéressant. Mais on le trouve ça aussi du côté de la correspondance masculine. Dans un autre registre, par exemple, la correspondance entre André Salmon et Mac Jacob au cours de l'entre-deux-guerres, il y a des formules de politesse affective qu'on ne trouverait plus, sans doute, de nos jours. C'est plutôt « cher collègue, bon, je vous remercie ». Mais voilà, ce genre de formule, aujourd'hui, donc, n'a plus lieu d'être. Et puis, troisième remarque. Je trouve aussi passionnant dans la communication donc de Claude Lattat le fait qu'il déplace un petit peu la perspective et au lieu de centrer tout son propos sur l'histoire des réseaux, il insiste bien aussi sur l'histoire de l'amitié. Voilà. Et ça, cette histoire de l'amitié, bon, c'est quelque chose qu'il ferait sans doute entreprendre. Et là, on a évidemment donc un aspect qui est tout à fait donc à la fois intéressant. Et évidemment, donc Claude Lattat a fait aussi un travail de fourmi. Bon, évidemment, on ne s'en rend pas forcément compte, mais pour trouver donc ce genre d'informations, là, il faut déployer une énergie considérable.
Merci. Autre remarque ? Autre question ? Estomac commence à crier famine. Moi, j'aurais peut-être une... Alice.
Pardon. Juste au passage, une remarque, effectivement, qui donnera peut-être des idées de recherche à certains ou certaines, par rapport à ce que vient de dire Frédéric Chauveau. Un point commun qui m'était venu à l'esprit entre Rosa Luxembourg et André Léo, c'est l'attention qu'elles ont pour la nature. Et donc, à la fois, cette fougue révolutionnaire et cette attention pour les plantes, les animaux, les paysages, etc. Je trouve voilà, il y a peut-être quelque chose à fouiller.
Alors, j'avais effectivement une question, mais qui s'adresse à l'ensemble de notre plateau de spécialistes. Par rapport à notamment à la communication de Nicole Pellegrin concernant les révolutions et l'évocation des révolutions dans l'œuvre d'André Léo. Alors, récemment a eu lieu, organisé par le CRIA, un colloque sur les pèlerinages, et notamment le lien entre pèlerinage religieux et politique. Et je repensais à cette formule, je crois, qui nous vient de Madeleine Robériou sur la conscience du mur. Donc je voulais savoir si, chez André Léo, on a soit dans l'évocation par son œuvre, soit éventuellement dans ses actes lorsqu'elle revient d'exil, cette fameuse conscience du mur des fédérés du cimetière du Père-Lachaise, de la commune de 71.
On s'adresse à moi, je suis obligée de répondre. Et comme depuis ce matin, je vais dire, je ne sais pas, je ne crois pas avoir jamais trouvé l'évocation du mur des fédérés. Par contre, puisque j'ai le micro, je voulais revenir sur l'histoire de l'évocation, les évocations botaniques d'André Léo, qui sont effectivement, au moins dans les romans, très très présentes et très très nombreuses. Mais c'est une manière, et ça je repensais que j'avais mal répondu à Anne tout à l'heure, c'est une manière de faire de la science pour toutes les femmes de lettres de cette époque-là. Alors depuis Fortuné Briquet, fameuse niortaise de 1804, en passant évidemment par Georges Sand, elles font de la botanique et elles font étalage de leur savoir botanique. Et dans le cas d'André Léo, je suis incapable de citer les, les centaines de plantes et autres plantules qui sont nommées dans ces différents romans. Et ça, c'est une manière, pour les femmes du 19e siècle, me semble-t-il, de faire science.
Oui.
Il y a un très beau parcours pédestre organisé par l'association André Léo. Il faut peut-être faire un petit peu de pub pour cette idée-là. Et il faut peut-être faire des circuits qui seraient parisiens. Et on passerait au mur quand même, même si elle n'en a pas parlé.
Une plaque commémorative.
Donc je parle du chemin patrimonial André Léo à Champagné-Saint-Hilaire que nous avons fait et qui est en fait une reprise du mariage scandaleux. Donc comme le texte se passait à Champagné, donc on a pris la décision de faire une douzaine de lutrins qui reprennent les textes du mariage scandaleux. Et lorsqu'on lit le texte, qui est un texte qui peut toucher la botanique, la géologie, on retrouve le paysage qu'il y a dans le livre. Donc je vous conseille de passer à Champagné pour cette... Donc parce que Le mariage scandaleux était un livre assez extraordinaire, parce qu'on parlait tout à l'heure de la codification. Elle a utilisé dans ses textes une codification permanente, qu'on ne sait pas décoder d'ailleurs, mais je vais vous donner un exemple. Dans les deux protagonistes du livre Un mariage scandaleux, c'est les Bertin et les Bourdons, et ce sont les Bérats et les Boucherons. Donc c'était sa famille et ses cousins Boucherons. Donc avec la famille Bertin qui était une famille d'une bourgeoisie déclinante et les Bourdons qui étaient une bourgeoisie montante avec l'actionnariat, on est en plein dans l'actualité, elle dénonçait justement ces dérives de certaines générations. Et dans le livre, il y a cette codification et je suppose que dans de nombreux livres, on va retrouver cette codification par des noms dans sa vie courante de tous les jours, au même titre qu'elle faisait tous ses livres sur les lieux qu'elle avait visité. Donc on peut retrouver son circuit rien que par la bibliographie de son œuvre.
Je voudrais continuer ce que disait Madame Pellegrin au sujet d'un itinéraire à travers Paris concernant André Léo, mais aussi concernant Benoît Malon. J'ai là une annexe du texte de Claude Latta qui dit que Benoît Malon a échappé à la police et il a été recueilli par Ferdinand Buisson, pardon, qui, par l'intermédiaire de Madame de Pressensé, l'a amené dans un temple protestant situé boulevard des Batignolles. Et de ce temple protestant, eh bien, on l'a amené aux missions catholiques de la rue du Bac. Vous voyez que là, l'œcuménisme existe pour sauver les communards, à l'initiative toujours de Élise de Pressensé. Et finalement, eh bien, il va être recueilli, on lisait tout à l'heure, par le sculpteur et statuaire Auguste Autin, au 9 rue Vincent Compoint, dans le 18e arrondissement. Donc voilà pour compléter le circuit. Merci.
Je voudrais poser une petite question, ce sera peut-être la dernière pour ne pas abuser. C'est que je suis musicologue plutôt, et je voulais poser la question dans ces ouvrages, quelles sont ses relations avec la musique? Est-ce qu'elle évoque la musique? Est-ce qu'elle prend plaisir à écouter de la musique? Est-ce qu'elle assiste, je ne sais pas moi, ou des chants révolutionnaires, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a trace dans son œuvre de musicale?
Alors, c'est une question générale, je suppose que... qu'une d'entre vous peut se saisir.
Elle évoque
question.
Souvent des chansons et des poèmes qu'elle reprend dans ses textes. Ouais. Il y a plusieurs livres où elle reprend
Au début de... Mais c'est pas très musical, c'est plutôt une chanson qu'elle a entendue à Champagné-Saint-Hilaire. Elle rapporte les paroles d'une chanson de la petite bergère. Bon, moi j'ajouterais aussi que dans Le mariage scandaleux, on apprend qu'elle devait être abonnée au journal des Demoiselles. J'ai réussi à avoir un exemplaire de 1837 et le journal des Demoiselles non seulement montre des patrons pour faire des robes ou autre chose, non seulement comme aujourd'hui, certains magazines rapportent des récits, mais il y a au moins chaque fois une partition musicale. Alors, était-elle capable de s'en servir? Je ne sais pas.
Oui, d'accord.
Donc Caroline nous a fait remarquer que comment s'appelle Cécile? Non. Cécile dans l'idéal au village joue du piano et ça fait une grande partie de l'importance de leur rapport entre elles. Et
il y a plusieurs héroïnes bourgeoises jouent du piano. En fait, je pense que c'est le marqueur social. C'est pour dire qu'elles avaient une certaine éducation de jeune fille, ni plus ni moins. Voilà ce qu'elles savaient faire. Il n'y a pas de grand développement sur la musique. Ce n'est pas extrêmement significatif, j'ai l'impression. Hein. Il me semble faut revoir. Hein. Dans Aline Ali, à un moment, elle est très touchée par un chant qu'elle entend venant d'une fenêtre, un chant de deux amoureux unis qui chantent en chœur et ça prend sens pour elle, ça l'émeut énormément. Donc il faudrait relire ce passage à la fin alors que son amant va mourir et qu'elle a renoncé à lui. Là, il y a peut-être quelque chose, mais je... Ah, pardon. Ah, c'est
vrai. Pour ceux qui n'ont pas lu, ils connaissent la fin de l'histoire. Voilà.
Oui, alors, à propos de l'idée qu'elle avait des fédérés qui sont morts pour la commune, je voudrais rappeler deux choses. D'abord, son discours qu'elle a fait juste dès qu'elle est arrivée en exil, la guerre sociale, où elle défend l'héroïsme, disons, des communards. Et d'autre part, un article qui est, à mon avis, un exemple d'écriture de journaliste, Les soldats de l'idée. Si je rappelle bien, c'est un article de la sociale, mais il faudrait que je vérifie. Et elle rend hommage dans cet article aux soldats qui ne sont pas des soldats officiels, qui ne sont pas des soldats de l'armée. Ce sont des gens du peuple. Elle parle de boulanger, si je me souviens bien. Elle parle d'artisans, de menuisiers qui combattent pour une idée. Et c'est les soldats de l'idée. Donc, d'habitude, elle est contre les révolutions armées, mais elle fait une exception pour la commune, l'expérience de la commune. Et en ce cas, elle valorise le fait que c'est une révolution du peuple, parce que ce sont les gens, les Parisiens, qui ont pris les armes pour défendre un idéal. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Peut-être pour une toute dernière question, madame.
Qui a levé la main? Moi, ce n'était pas une question, c'était à propos des mots qui sont vides de sens. Il y a le mot pétroleuse, et j'ai vu sur le net qu'il y a une revue qui va sortir apparemment au mois de novembre, et qui est une revue féminine, mais vraiment le contraire des revues. Je ne sais pas trop en citer parce que je ne les lis pas beaucoup, mais dont on va attendre des femmes sans doute différentes de celles qu'on voit revisitées par Photoshop et tout ça. Et donc, je vous donne l'information à chercher. Et puis j'ai croisé aussi dernièrement sur la télévision un gros livre, 3 volumes je crois, sur la virilité, et dont il y a tout un volume sur le 19e. Donc ça peut être aussi intéressant peut-être.
Merci beaucoup.
Frédéric.
Alors Frédéric Chauveau pour une dernière intervention. 3 questions.
Il
n'y a pas trois questions, il n'y en a même pas une, il n'y a pas de commentaires, c'est juste une information, puisque là, on va s'arrêter pour la pause, mais juste une précision, c'est Jean-Luc Terradios, donc le rédacteur en chef de l'actualité Poitou-Charentes, souhaiterait renouer un petit peu avec des pratiques de l'école communale et voudrait que tous les intervenants et présidents de séance se rassemblent maintenant pour une photo de groupe qui sera donc après ça diffusée largement. Voilà. Donc on se sépare maintenant. Si vous laissez vos affaires, là, la salle sera fermée. C'est pas la peine de vous encombrer. Et on se retrouve donc à 14h.
Bon appétit.